Chapitre 13. La soirée chez la duchesse de Villagarcia rendit le tourment de Geneviève plus vif encore. Pourquoi Ernest ne la regardait-il pas comme le marquis l'avait regardée? Elle ne pouvait pourtant pas le lui demander. Cela devenait exaspérant à la fin. Il était homme, c'était à lui de parler, non à elle. À force de tourner autour de cette idée, elle en vint à se dire que la faute en était peut-être à elle. Plusieurs fois, elle avait cru qu'il allait parler, et s'il s'était tu, n'était-ce pas parce qu'elle lui avait fermé la bouche? Comment? Elle n'en savait rien. Mais cela se pouvait cependant. Avant de l'accuser, n'était-il pas juste qu'elle fît son examen de conscience et vît si elle n'était pas elle-même la coupable? Ainsi, pourquoi lui avait-elle dit qu'elle ne se marierait jamais, et cela au moment même où c'était lui qui avait commencé à lui parler mariage? N'était-ce pas une inconséquence de vouloir qu'il parlât, et précisément, au moment où il allait peut-être parler, d'avoir peur de l'entendre? Si elle avait été maladroite dans cette circonstance, elle ne le serait pas quand il s'en présenterait une autre. Justement, le dimanche suivant, elle devait aller rue Girardon pour inaugurer une salle de verdure qu'Ernest avait arrangée exprès pour elle et où l'on devait goûter en plein air les jours de beau temps. Peut-être cela offrirait-il une occasion de reprendre l'entretien où elle l'avait interrompu. Cette fois, elle ne couperait pas la parole à Ernest, et s'il ne la prenait pas, elle avait un moyen sûr pour lui ouvrir les lèvres. Ce jour-là, elle apporta à sa toilette un soin extraordinaire. Il ne s'agissait pas d'être une petite fille, il fallait bien montrer qu'on était une jeune fille bonne à marier et qui se marierait quand elle voudrait, tout de suite si cela lui plaisait. Et quand elle se regarda dans sa glace après s'être habillée et peu de temps avant de partir avec sa mère, elle trouva que s'il ne la voyait pas ce qu'elle était, c'est que décidément il n'avait pas Dieu pour voir. Heureusement, il aurait des oreilles pour entendre sans doute. Dans la semaine, et avec l'aide de sa mère, elle s'était fait une robe en cachemire d'Écosse grenat, ayant choisi avec intention cette teinte sérieuse qui devait, croyait-elle, la vieillir, et qui, au contraire, donnait encore un éclat plus jeune à son teint clair et à ses cheveux blonds légers. La forme de cette robe avait été une grosse affaire. Elle voulait qu'elle allongeât sa taille fine et, en même temps, qu'elle fît valoir ses épaules aux contours arrondis et sa poitrine ferme et développée qui était son grand sujet de fierté. Et cela, un peu par parti pris de jeune fille qui veut faire la femme, car il y avait en elle d'autres beautés dont elle aurait pu être tout aussi justement fière. Sa petite bouche en cerise, aux lèvres charnues et rebondies, ses beaux grands yeux marrons, tout pleins de lumière sous ses épais sourcils dorés, le profil pur et l'ovale régulier de son visage, dont l'expression était la grâce placide. Si elle attendait ce jour avec émotion, Faré ne l'attendait pas moins impatiemment qu'elle, car depuis 15 jours, il travaillait à sa salle de verdure qu'il avait entièrement élevée de ses mains. À vrai dire, cependant, elle ne ressemblait en rien aux serres anglaises, aux portiques italiens que Gardenia décrivait si complaisamment dans ses chroniques et peuplait des femmes les plus titrées de la haute élégance. Ce n'était que de simples poteaux formant carcasse et soutenant des fils de fer régulièrement espacés, mais quand ces poteaux et ces fils de fer seraient garnis sur trois côtés et sur le toit de plantes grimpantes, vignes vierges, chèvrefeuilles, qui commençaient à pousser, ce serait très joli. Au reste, ce fut le mot de Geneviève en arrivant. « Comme cela sera joli quand il y aura des feuilles et des fleurs! Comme vous avez bien arrangé tout cela !» Ce qui était vraiment joli et déjà joli, c'était le jardin qui, si pauvre qu'il fût, avait sa parure du printemps. En avril, quand les lilas fleurissent, tous les jardins parisiens ne sont-ils pas charmants, les plus modestes comme les plus riches? Que leur faut-il? Une corbeille de giroflées, quelques pieds de pensée, une touffe de narcisse et la fraîche verdure qui répand dans l'air l'odeur de la sève. Et puis, si le feuillage manquait encore autour de cette salle, au moins avait-elle la vue, car Faré l'avait disposé au point le plus élevé du jardin, celui qui commandait l'horizon, depuis le Mont Valérien jusqu'à Montmorency. Et l'on pouvait rester là longtemps, sans ennui, à suivre le mouvement des nuages ou les caprices de la fumée que dispersait le vent. mais ce n'était pas le jour des rêveries silencieuses, et quand ils eurent imaginé, en alternance, que serait cette salle de verdure le jour où elle aurait de la verdure, Geneviève, voyant que la conversation pourrait bien tourner sur les fleurs, la vue, les nuages, voulut en venir au plan qu'elle avait préparé. « M'avez-vous regardé ?» lui demanda-t-elle. « Mais certainement, elle vous voit très bien, votre robe. »« Il ne s'agit pas de ma robe. Regardez-moi encore. » Et pendant qu'il examinait, elle jeta les yeux du côté des mères. Elles étaient sous le porche de la maison, Madame de Mussidan brodant des manchettes pour sa fille et Madame Faré travaillant à la tapisserie du dimanche. Ils pouvaient donc causer librement. « Eh bien, demanda-t-elle, regardez-moi. Imaginez que vous ne me connaissez pas et dites-moi pour qui vous me prenez. Mais pour une très jolie fille. C'est agaçant. Comment, vous ne pouvez pas répondre à ce que je vous demande ? Mais que me demandez-vous ? Ah, je vois bien que vous ne me répondrez jamais. Je vais parler, moi, et vous dire ce qui m'est arrivé dimanche chez Madame de Villagarcia. Vous avez eu beaucoup de succès. Ah, s'écria-t-elle, après la robe, le succès maintenant. Eh bien oui, j'ai eu du succès, mais pas celui que vous pensez. Ah, ça, vous vous imaginez donc qu'on ne peut voir en moi que la pianiste ? C'est exaspérant à la fin. Eh bien, apprenez que je ne suis pas seulement une boîte à musique. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez que chez Madame de Villagarcia se trouvait le marquis d'Arlanzon ? Comment donc ? Parmi les notabilités étrangères qui s'étaient donné rendez-vous hier dans les salons de la duchesse de Villagarcia, cette parisienne espagnole, cette espagnole parisienne qui porte la triple couronne de la beauté, du talent et du rang, ont remarqué le marquis d'Arlanzon. Mais j'ai imprimé ça. Eh bien, celui que vous appelez l'élégantissime marquis dans votre article. Devez-vous faire attention à mes adjectifs. Si vous les relevez, relevez les plus bêtes au moins. Le marquis, je crois que le marquis... Il me semble que le marquis... Ah, mais je ne sais pas comment vous dire cela. Mais quoi, quoi cela ? Elle avait cru que cela était plus facile à dire, et quand elle avait préparé son petit discours, elle avait trouvé des mots qui, maintenant qu'elle devait les prononcer, prenaient des proportions énormes et la faisaient rougir. Cependant, désespérément, elle se jeta à l'eau. Enfin, si le marquis s'occupait de moi ! « Le marquis ? » s'écria-t-il avec une stupéfaction indignée. « Oui, l'élégantissime marquis. »« C'est impossible. »« Enfin, si cela était. »« Si cela était, si cela était, eh bien, ce serait une infamie. »« Pourquoi une infamie ? » ?»« Parce que vous êtes une enfant. »« Une enfant ? » s'écria-t-elle fâchée. Puis, après un court instant de réflexion, car ce mot avait démoli tout son plan et les choses ne suivaient pas du tout le cours qu'elle avait imaginé, « Pas si enfant que cela, dit-elle, vous voyez bien. » Lui aussi, il resta un moment sans répondre, la regardant et passant bien évidemment par des sentiments opposés, entraîné et retenu à la fois, ouvrant les lèvres comme pour parler et les refermant aussitôt avec le geste d'un homme qui se résiste à lui-même. Et ce qui redoublait son trouble, c'est qu'il la voyait devant lui, émue elle-même et tremblante. Mais, justement, après quelques instants de lutte, ce fut cette émotion qui lui inspira sa réponse. « Oui, dit-il, vous êtes et vous n'êtes qu'une enfant, une enfant charmante, toute pleine d'ingénuité et d'innocence, celle de votre âge, et ce serait les ternir que d'avoir pour vous d'autres yeux que ceux d'une honnête et pure admiration. » Si peu estimable que soit M. d'Arlanzon, il n'est pas capable de ce crime, j'en suis sûr, puisqu'il est l'ami de votre père. Un jour viendra, et il est proche, où l'on pourra s'occuper de vous, comme vous dites. Mais il n'est pas venu. Ne vous laissez pas abuser par votre imagination sur les sentiments que vous croyez qu'on éprouve pour vous, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ils ne sont pas ce que vous pensez. Ne vous en rapportez pas à ce qu'on vous montre. Attendez. « Oh, je ne demande pas mieux !»